3, 2, 1. Ils sont partis.
Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe.
Good morning, Vietnam!
So, back to it.
Cours, Forrest, cours!
You know nothing, Jon Snow.
Bienvenue à Programme Double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Les peuples autochtones des Amériques comprennent de nombreuses cultures différentes. Chacun a ses propres mythologies, dont plusieurs incluent une relation étroite avec la nature et les animaux, ainsi que la croyance en un grand esprit qui est conçu de diverses manières. Alors qu'un grand esprit constitue la base de la théorie indienne, les tribus croient en plusieurs divinités qui sont entourées de mythologies. Conformément à leur conception de la nature et de l'esprit, ils font constamment appel à ces pouvoirs à chaque étape de leur vie. Alors que les cultures et les coutumes varient entre les tribus, elles croient toutes que l'univers était lié par les esprits de la vie naturelle, y compris les animaux, l'eau, les plantes, le ciel et la terre elle-même. La culture amérindienne aura du mal à survivre après que l'homme blanc ait envahi leur vie. Vivant à travers les déplacements forcés, la guerre, la famine, les maladies et l'assimilation, ces personnes fortes et spirituelles ont réussi à maintenir vivantes leurs nombreuses légendes et histoires. Transmis de génération en génération, ces nombreux contes parlent de messages intemporels de paix, de vie, de mort et d'harmonie avec la nature. Les croyances sacrées de nombreuses tribus sont largement formulées et exprimées dans des dictons et des récits ayant une certaine ressemblance avec les légendes des peuples européens. Bien que chaque tribu ait ses propres croyances et mythes sacrés, ces dernières ont beaucoup en commun. En plus des héros et des sorciers de cette mythologie, on trouve également de nombreux contes d'animaux dans lesquels des êtres surnaturels apparaissent sous la forme d'animaux bien connus et assistent ou accordent des faveurs aux humains. Il n'y a pas de mythologie unique des peuples autochtones d'Amérique du Nord, mais de nombreux canons différents de récits traditionnels associés à la religion, à l'éthique et aux croyances riches en symbolisme des saisons, du temps, des plantes, des animaux, de la terre, de l'eau, du feu, du ciel et des corps célestes. Et ce sera ce folklore qui sera au centre de notre émission d'aujourd'hui, durant laquelle je vous présenterai deux films où notre société et notre technologie d'aujourd'hui seront totalement dépassées et menacées par ces êtres surnaturels provenant d'une croyance vieille de plusieurs siècles. D'un côté, nous assisterons à la confrontation entre la technologie du 20e siècle et la force surnaturelle de l'esprit d'un ancien sorcier amérindien de plus de 400 ans, sur le point d'être réincarné dans le long métrage de 1978 de Manitou. Cela sera suivi d'une confrontation entre l'ordre de notre société d'aujourd'hui et celui de créatures mythiques ayant la forme de loup et provenant de légendes amérindiennes, sujet qui sera abordé dans le drame fantastique de 1981, Wolfen. Donc, préparez-vous à combattre une entité maléfique à l'aide de vos manitous et cherchez à survivre coûte que coûte à l'attaque de loups intelligents et meurtriers dans cette émission de Programme Double où la croyance de légendes du passé menace la science et la technologie de notre présent.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you.
We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
So, let's be honest. Streaming is taking over. Platforms like Netflix, Hulu, and Amazon have caused an explosion in the market. But some of us can't help but ask, why? Where's the experience? What about that movie theater drink, candy, and popcorn combo? And then, the moment you've been waiting for, the movie starts. Or does it? The sad truth is, movie theaters are dying. So what can we do? One, buy a ticket. Or buy two. Ditch your TV streaming options at home and hit the theater. Because together, we can keep the movie theater experience alive.
Mr. Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of taste-thrilled treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land.
See your next movie completely free. And now, on with the show.
How long have you had this?
About 3 days.
It has been 400 years since its last reincarnation.
Any pain?
It kind of moves sometimes.
The soul of black magic is waiting to be reborn.
What's your diagnosis?
Panna! Richie Salatu.
For years, man has turned his back on the supernatural.
This is hers!
Might almost describe it.
Some will deny it.
There's a fetus.
Others will fear it.
On her neck?
One woman will give birth to it. The Manitou. Since the beginning of time, it has practiced the mysterious arts. Its day is near. Each hour it grows stronger. Soon it will come. The Manitou. Starring Tony Curtis. On a supernatural journey into the world of avenging spirits.
John!
Michael Ansara.
What does a white man want with Indian magic?
A modern American Indian thrust into a savage struggle with unspeakable taboos. Susan Strasberg, living in a nightmare. Innocent people, tormented by terror, threatened by the unknown, trapped by an ancient horror. The Manitou. An evil that never dies. It just waits to be reborn. The Manitou.
The Manitou, ou Le Faiseur d'épouvante, est un drame fantastique qui a été distribué par les studios AFCO Embassy Pictures le 28 avril 1978. Ce film américain d'une durée de 104 minutes coûtera plus de 3 millions de dollars à produire, mais malheureusement, je n'ai pas les chiffres concernant son box-office. Sur la chaîne du réalisateur, on y retrouve le metteur en scène américain William Girdler, lui qui nous avait donné les films Abby, Grizzly et Day of the Animals. Ce sera également lui qui sera producteur américain, lui n'ayant produit que deux films dans sa carrière, soit Abby et The Manitou. Au niveau de la scénarisation, on y retrouve à nouveau William Girdler, ce scénariste américain qui avait travaillé sur les scénarios de Three on a Meat Hook et Asylum of Satan. Il sera accompagné de John Seder, ce scénariste américain qui n'a écrit qu'un scénario dans sa carrière, soit celui de The Manitou, et le scénariste américain Thomas Pope, lui qui avait écrit les scénarios de The Lords of Discipline et Cold Dog Soup. Au niveau de la distribution, on y retrouve les acteurs Tony Curtis, Michael Ansara, Susan Strasberg, Stella Steven, John Seder, Anne Sutherland, Burgess Meredith et Paul Menti. Une jeune fille souffrant d'une tumeur à la nuque revoit un vieil ami, diseur de bonne aventure et charlatan, à la veille d'une opération visant à retirer cette tumeur. Mais lorsque l'opération tourne mal, l'homme en question découvrira alors que la tumeur est en réalité le fœtus d'un ancien sorcier amérindien qui cherche à se réincarner et demandera l'aide d'un autre sorcier indien afin de combattre l'entité maléfique. The Manitou sera le tout premier roman écrit par l'Écossais Graham Masterton et sera publié par la maison d'édition Pinnacle Books le 1er janvier 1976. Grâce à cette œuvre, l'auteur sera considéré comme l'un des papes de la littérature fantastique anglo-saxonne contemporaine. Immédiatement après sa parution, le livre deviendra un best-seller, ce qui forcera l'auteur, né en 1946, à écrire 5 suites, soit Revenge of the Manitou en 1979, Burial en 1981, Manitou Blood en 2005, Blind Panic en 2009 et finalement Plague of the Manitou en 2015. De plus, 2 nouvelles seront écrites, mettant en vedette le personnage du médium Harry Erskine, soit The Djinn en 1977, ainsi que Spirit Jump, qui apparaîtra dans le livre Faces of Fear en 1996. Entre en scène le réalisateur de films à petit budget, William Girdler. Né le 22 octobre 1947, Girdler lancera son studio de production Studio One Production au début de la vingtaine, et réalisera son tout premier long-métrage, un film à petit budget, intitulé Asylum of Satan, qui sortira brièvement en salle. Par la suite, il réalisera un slasher intitulé Three on a Meat Hook. Ces 2 productions, qui furent tournées dans sa ville natale, ne seront pas de grands succès au box-office, mais attireront alors l'attention du producteur Samuel Z. Arkoff, qui décidera d'embaucher le jeune homme pour réaliser des longs-métrages pour sa compagnie de production American International Pictures. Girdler s'attaquera donc par la suite à la réalisation de 3 blaxploitation films, dont Abby, qui donnera alors une certaine crédibilité au jeune réalisateur. En 1976, il réalisera le drame d'horreur Grizzly, une sorte de rip-off au film à succès Jaws, sorti en salle 1 an plus tôt. Ayant un succès monstre, Girdler réalisera par la suite un autre film d'horreur, soit Day of the Animals, qui sera moins populaire que son prédécesseur, mais qui fera tout de même un petit profit au guichet. Avec plus de 9 films réalisés en moins de 6 ans, le jeune metteur en scène mettra la main sur un exemplaire du célèbre roman The Manitou de l'écrivain Graham Masterton. Ce sera durant son voyage en avion que Girdler lira le roman. À son arrivée à destination, le jeune homme appellera immédiatement son associé afin que ce dernier acquière les droits d'adaptation cinématographique du roman, ce qui sera fait pour la modique somme de 50 000 $. Ayant travaillé avec l'acteur John Seder sur son film Day of the Animal, Girdler parlera de son prochain projet de film avec le comédien qui acceptera alors d'être producteur associé à condition qu'il puisse travailler sur le scénario avec lui et également avoir un petit rôle dans le film, ce à quoi Girdler acquiescera. Demandant l'aide du scénariste Thomas Pope, les 3 hommes écriront alors le script en moins de 3 jours. Par la suite, le metteur en scène trouvera son financement avec les compagnies Herman Weist et Associates et Melvin Simon Productions, amassant plus de 3 millions de $, le plus gros budget de production qu'obtiendra le réalisateur spécialiste de la série B dans sa carrière. L'une des forces de Girdler était sa facilité à obtenir des acteurs de renommée sur ses productions. Cette fois-ci, il est recherché l'acteur Tony Curtis, qui avait obtenu une nomination aux Oscars pour son rôle dans The Defiant Ones en 1958. Une fois l'acteur signé, le jeune réalisateur approchera les acteurs Burgess Meredith, Michael Ansara, Stella Stevens et finalement l'actrice Susan Strasberg, qui prétendait, elle, avoir été victime de phénomènes paranormaux dans sa résidence de Beverly Hills au début des années 1960, en compagnie de son ex-mari, Christopher Jones. Pour la plupart des acteurs masculins ayant eu un rôle dans The Manitou, ces derniers admettront avoir accepté de jouer dans cette production afin d'aider au paiement de leur pension alimentaire. Pour interpréter le personnage du Manitou, connu sous le nom de Miss Quamacus, Gedler se tournera vers les acteurs de petite taille Joe Gieb et Félix Silla. Silla était l'acteur qui avait interprété le personnage du cousin It dans la série télé des années 1960, The Addams Family. Le tournage débutera le 18 avril 1977 à San Francisco, puis se dirigera en mai à Los Angeles en passant par le Dakota. Bien que possédant un mince budget, Girdler s'entourera de spécialistes techniques pour la réalisation de son projet. Ce sera Thomas R. Berman, qui travaillera sur plusieurs films de la maison de production American International Pictures, qui s'occupera ici des maquillages ainsi que des effets spéciaux. Son travail sur The Manitou permettra par la suite à Berman d'obtenir le poste de concepteur des effets spéciaux sur les films Invasion of the Body Snatchers en 1979 et Happy Birthday to Me, en 1981. En plus des effets de Berman, la compagnie Houston Intertronics Incorporated sera également embauchée pour la réalisation de quelques effets visuels. Dale Tate et Frank Van Devere seront les superviseurs des effets optiques photographiques, Van Devere ayant eu une belle carrière jusque-là, ayant travaillé sur des films tels que King Kong, la version 1976, et Star Wars en 1977. Après son travail sur The Manitou, il ira travailler sur des productions de Clash of the Titans en 81 et Conan the Barbarian en 82. Jules Brenner sera quant à lui embauché à titre de directeur de la photographie, mais dut céder sa place à Michael Hugo, ce dernier étant surtout connu pour son travail dans diverses séries télé américaines et qui avait précédemment travaillé sur le film de science-fiction Bugs, qui sera distribué en salle en 1975. Pour la conception musicale, William Gidler se tournera vers le compositeur Lalo Schifrin, qui travaillait à ce moment-là à la conception de la musique du drame fantastique The Amityville Horror. Le tournage prendra fin en juillet 1977, soit deux jours en avance sur ses délais normaux de production. Après que Bob Assman eut terminé le montage, le long-métrage sera alors diffusé devant les membres de la MPAA qui lui donneront alors une cote « restricted ». Girdler ira débattre de cette cote face aux gens de l'organisation, celui-ci désirant obtenir une cote PG. Finalement, 10 des 15 membres de l'organisation accepteront alors de changer l'âge d'acceptation pour aller voir le long-métrage au cinéma, et ce malgré l'opinion du conseil qui trouvait que le sujet était beaucoup trop effrayant pour les jeunes enfants. Produit de manière indépendante, The Manitou verra ses droits de distribution mondiaux être vendus à AFCO Embassy Pictures, qui distribuera le film à la fin d'avril 1978 aux États-Unis, avec un déploiement plus important en juin dans le reste de l'Amérique du Nord et dans le monde entier l'année suivante. Une fois le film sorti des salles de cinéma, AFCO Embassy vendra ses droits de télévision du film au Columbia Broadcasting System, soit CBS. Une anecdote amusante, lorsque The Manitou sera distribué en Afrique du Sud, les invitations pour l'avant-première seront imprimées sur des sacs vomitoires. Le film obtiendra de très mauvaises critiques de la part des journalistes, mais sera tout de même apprécié du public. The Manitou obtiendra deux nominations au Saturn Award de 1979, soit le prix du meilleur acteur dans un second rôle, Michael Ansara, et le prix pour les meilleurs maquillages. Il faudra attendre en 2007 avant que le long-métrage ne soit diffusé en DVD. Une tragédie frappera quelque temps avant la sortie du film au cinéma. En effet, alors qu'il se trouvait aux Philippines à la recherche de futurs lieux de tournage pour son prochain film, le jeune réalisateur William Girdler, alors âgé de seulement 30 ans, perdra la vie dans l'écrasement de l'hélicoptère dans lequel il se trouvait en janvier 1978. L'acteur, scénariste et producteur John Seder décédera d'une leucémie au Providence Tarzana's Medical Center de Los Angeles le 14 avril 2011 à l'âge de 80 ans. Tony Curtis, pour sa part, décédera à son domicile de Henderson le 29 septembre 2010 des suites d'un arrêt cardiaque. Pour l'actrice Susan Strasberg, cette dernière décédera d'un cancer du sein chez elle à New York le 21 janvier 1999 à l'âge de 60 ans. Quant à l'acteur Michael Ansara, ce dernier perdra la vie suite à des complications reliées à la maladie d'Alzheimer à son domicile de Calabasas le 31 juillet 2013 à l'âge de 91 ans. Graham Masterton écrira plus de 70 romans durant sa carrière, dont une trentaine dans le créneau fantastique, mais malheureusement, il ne connaîtra pas le succès grand public d'un Stephen King, de Manitou, demeurant la seule adaptation à ce jour de l'une de ses histoires. Il recevra cependant de nombreux prix, dont un Special Edgar Award de la Mystery Writers of America pour son œuvre Charnel House, une médaille d'argent de la West Coast Review of Books pour son livre Mirror, et finalement le prix Julia Verlander pour son livre Family Portrait. Il a également écrit 4 recueils de nouvelles et est l'auteur de la série Rook. L'auteur demeure actuellement à Surrey, en Angleterre. Du côté des points forts, eh bien, il est à noter que The Manitou est un film petit budget de série B qui se regarde au second degré. Malgré un scénario ridicule, le drame fantastique se veut une œuvre véritablement amusante à regarder dont le seul objectif est de distraire son auditoire. Il y a certaines séquences impressionnantes dans ce long métrage, dont celle de la séance de spiritisme et surtout celle de la naissance de Misquamacus. Le réalisateur réussit à nous donner une ambiance sombre dotée d'une bonne dose d'humour, le tout à travers un rythme assez bien soutenu. Au niveau de la distribution, ce sera le travail de Burgess Meredith dans le rôle du Dr. Snow et celui de l'actrice Lurette Tuttle qui sera à souligner ici. Les deux comédiens se démarquant véritablement à travers leur rôle secondaire. De plus, certains effets spéciaux seront impressionner l'auditoire, surtout à l'époque où ils ont été réalisés, et ce, même dans des séquences jugées ridicules. Mais du côté des points faibles, ben, comme on le dit souvent, le ridicule ne tue pas, et c'est ce qu'on peut retrouver ici avec ce scénario, nous présentant une histoire abracadabrante où les effets excessifs abondent à tel point que le spectateur risque d'en rire. De plus, les dialogues sont assez simplistes, tout comme l'intrigue et la réalisation de Girdler. En général, la distribution est assez moyenne, cherchant difficilement à convaincre l'auditoire du sérieux de la situation. Malheureusement, The Manitou se sert d'une bonne prémisse aux sources du folklore indien, mais les ridiculise, appelant même à un certain moment au Manitou des armes à feu ou pire, à celui des machines du 20e siècle. Alors que le premier deux tiers du long-métrage nous plonge totalement dans un univers d'horreur, la dernière partie sombre quelque peu dans l'imbécilité, nous donnant l'impression de voir Star Wars dans notre réalité, le tout se terminant d'une façon des plus simplistes. Bien que certaines séquences n'ont aucun sens, tout comme ce tremblement de terre qui fait bouger les murs d'une pièce comme si ces derniers n'étaient nullement retenus ensemble, The Manitou demeure tout de même un petit film amusant qui s'écoute bien avec un cerveau en position off, une journée de fin de semaine pluvieuse. Du côté de la trame sonore, eh bien, c'est le compositeur argentin Lalo Schifrin qui a réalisé la trame sonore du film ici. Schifrin qui avait réalisé la musique de la série télé Mission Impossible, ainsi que des films Coogan's Bluff, Dirty Harry et Caveman. Je vous présente ici un extrait de la trame sonore du film de Manitou. Thank you.
rise and stretch time. Time to refresh yourself and visit our snack bar. Got a yen for hot popcorn? Your favorite soft drinks are sparkling cold. The juicy Frank sizzling hot. There's delicious coffee freshly brewed and all kinds of ice cream and candy to tempt you. Showtime will be announced loud and clear to get you back to your car in time. So stretch your legs. Come to the snack bar now.
What is it?
Say,
what is it?
Hey, why, it's Buttercup. Popcorn and sweet cream butter, two hot popcorn. Mix it up, wrap it up, Buttercup is born.
It's delicious.
So nutritious.
It's a taste delight.
It's so munchy.
Crisp and crunchy.
You'll enjoy each bite. Eat Butter-Crunched Buttercup. Popcorn at its best.
Served in a king-size cup.
It beats all the rest.
For our patrons, men, women, boys, girls, through the cooperation of leading business places, you may now have free admission to this theater. Ask for dividend tickets when you shop at... Names of merchants who give dividend tickets are listed in the lobby of the theater and on circulars at the concession stand. Dividend tickets will be accepted on all standard box office priced films. So take a circular with you today and start saving dividend tickets tomorrow when you shop. See your next movie completely free.
Hi, folks. I'm Rico.
Oh, Nacho.
He's Peppy.
See?
You can find us at the concession stand in the lobby.
Along with all sorts of other tasty goodies.
See? Rico's Nachos, a refreshingly new and different snack discovery. Chock full of high-quality ingredients, crisp, fresh tortilla chips, covered with creamy aged cheddar cheese, topped off with zesty jalapeno pepper rings. Rico's Nachos, out of sight.
Remember, folks, we're the new star at the snack bar. Rico's Nachos, a new taste treat you can't beat.
See? Rico's Nachos, on sale at the snack bar now.
See your next movie completely free.
And now, on with the show.
Rated X.
Get more out of life. Go out to a movie.
Five, four, three, two, one.
Orion Pictures presents Wolfen. For centuries, they have been hiding in the rubble of your cities. The concealed threat. The invisible terror.
Chris!
You scared me!
They can sense the rhythm of your blood. Hear clouds pass overhead. See where you are blind. A force so deadly, it will tear the screen from your throat. Wherever you are, they are.
Somewhere in the world, every other day, a corporate executive is assassinated.
Team her up with Wilson.
Murphy or Mahoney, I'm comfortable with.
You're uncomfortable?
With surprises.
There's not a trace, not a speck of metal. Nothing softer could have ripped and ravaged like this.
Is it an animal?
Well, it ain't human.
Do you realize how many people disappeared without a trace?
Something out there might be eating people.
Did you hear that?
Yeah! Get out of there!
What do you think it was?
You were being lured. We were being separated.
Why
I what?
The carnivore. You got yourself some kind of meat eater.
Meat eater.
What is it?
It's wolf. They're all animals. They might be gods. In their eyes, you are the savage.
Wolfen, ou Wolfen, Dieu ou Diable, est un drame fantastique qui a été distribué par les studios Orion Pictures et Warner Bros. Le 24 juillet 1981. Ce film américain d'une durée de 114 minutes aura coûté plus de 17 millions de dollars à produire, mais n'amassera que 10,6 millions de dollars au box-office. Au niveau de la réalisation, on y retrouve le metteur en scène américain Michael Wadley, lui qui avait réalisé le documentaire Woodstock. Au niveau de la production, eh bien, ce sera le producteur américain Rupert Hitzig qui, lui, aura produit les films Jaws 3D, The Last Dragon, The Squeeze et Stuff It. Et au niveau de la scénarisation, on y retrouve les scénaristes américains Michael Wadley, lui qui n'avait écrit qu'un seul scénario dans sa carrière, soit celui de Wolfen, David Eyre, lui qui avait écrit le scénario de la série télé Roots, The Gift, ainsi que du film Castle Annie and Little Bridges, et finalement, Eric R. Roth, lui qui avait écrit les scénarios de The Concorde, Airport 79, Forrest Gump et Munich. Au niveau de la distribution, on y retrouve Albert Finney, Diane Venora, Edward James Olmos, Gregory Hine, Tom Noonan, Dick O'Neill, Daryl Bertie et Peter Michael Goetz. Un détective est appelé à enquêter sur la mort brutale d'un riche politicien, de sa femme et de son chauffeur. Des indices relient cet attentat à d'autres incidents mortels survenus dans un quartier en démolition du Bronx. Alors que des agents de son bureau orientent leur enquête en direction d'activités terroristes, notre policier, lui, découvrira la présence de loups dotés de facultés extraordinaires qui semblent être responsables de ces assassinats. Louis Whitley Strieber est un auteur né à San Antonio, au Texas, le 13 juin 1945. Il fera ses études à l'Université du Texas à Austin et à la London School of Film Technique, où il a obtenu son diplôme en 1968. Par la suite, il travaillera pour plusieurs agences de publicité à New York, atteignant le niveau de vice-président avant de partir en 1977 pour poursuivre une carrière d'écrivain. Ce sera finalement en 1978 que Strieber verra sa toute première nouvelle être publiée par la maison d'édition William Morrow & Company. Cette nouvelle sera alors intitulée Wolfen. Ce sera avec le soutien financier de la maison de production Orient Pictures que les producteurs Rupert Hitzig et Alan King achèteront les droits cinématographiques du roman de Strieber en 1978 pour un montant de plus de 300 000 $. C'est alors que l'équipe de producteurs cherchera un réalisateur pour mettre en image l'adaptation cinématographique. Né le 24 septembre 1942 à Akron, en Ohio, Michael Wadley avait fait ses débuts comme directeur de la photographie sur plusieurs films indépendants avant de se voir donner la chance de réaliser sa toute première œuvre cinématographique en 1969, soit l'excellent documentaire intitulé « Woodstock ». L'homme entreprendra alors la tâche monumentale de documenter le Woodstock Music Festival et filmera l'événement au complet, arrivant sur le site de Bethel à New York avec plus d'un millier de bobines de films et une équipe de plusieurs caméramans. Le produit fini de 184 minutes sera distribué par Warner Bros. Le 26 mars 1970. Ayant coûté seulement 600 000 $ à produire, Woodstock rapportera plus de 50 millions de $ au box-office nord-américain, mais en raison d'un arrangement compliqué avec Warner Bros., Wadley ne recevra qu'un mince pourcentage des bénéfices. Au cours de la décennie qui s'écoulera par la suite, Wadley passera de nombreuses années à Hollywood à développer des scénarios qui ne seront jamais produits. Après avoir vu Woodstock, ce sera l'un des cofondateurs d'Orion Pictures, Mike Medavoy, qui se montrera intéressé à l'un des projets de Wadley, une épopée de guerre intitulée The Revolution. Après que sa recherche de financement ait échoué, Wadlick se verra proposer par Medavoy d'envisager de faire un long-métrage commercial afin de gagner une certaine crédibilité dans le milieu hollywoodien, ce qui l'aiderait alors à trouver plus facilement du financement pour produire son ambitieux projet. Se faisant présenter plusieurs scénarios différents, Wadlick acceptera celui de l'adaptation cinématographique de The Wolfen et se mettra rapidement à travailler à l'ébauche d'un premier jet de script avec Lawrence D. Cohen, qui avait récemment écrit le film de Brian De Palma, Carrie. Cohen sera cependant rapidement remplacé par un nouveau venu, David Airy, qui finalisera alors le scénario avec Wadlick. Ce sera la compagnie United Artists qui sera intéressée à distribuer le long métrage. L'acteur Dustin Hoffman se montra alors intéressé à interpréter le rôle de Dewey Wilson, mais Wadlick insistera sur l'acteur Albert Finney. United Artists se retirera alors du projet et en 1979, un contrat de distribution sera finalement signé avec la compagnie Warner Bros. Pour la distribution mondiale du long-métrage, Entente, qui permettra alors à la pré-production de débuter avec un budget de plus de 10 millions de dollars. Au niveau de la distribution, le réalisateur désirait opter pour une distribution mettant en vedette de totales inconnues. Diane Venora, qui battra plus de 200 actrices pour son rôle, en sera à sa toute première expérience comme actrice principale dans un film, alors que Gregory Hines en était, lui, à son second tournage, le premier étant History of the World Part 1, qui avait été tourné un mois plus tôt. Avant le début du tournage, Albert Finney décidera de se tenir souvent avec l'acteur Gregory Hines afin de développer avec ce dernier une camaraderie comme leur personnage aurait dans le long métrage. L'acteur Tom Waits et le réalisateur Michael Wadlick auront tous les deux des caméos dans le film. Le tournage débutera à la fin d'octobre 1979 à New York, principalement sur l'île de Manhattan et dans le Bronx. Malheureusement pour le jeune réalisateur, Wolfen deviendra une production problématique remplie d'embûches de toutes sortes. À cause de son style documentaire, Wadlick décidera d'utiliser la dégradation urbaine du sud du Bronx de cette époque comme visuel, celui-ci ne requérant aucun effet spécial pour obtenir le look apocalyptique désiré. En effet, au moment où sera tourné le long-métrage, de grandes parties des arrondissements de New York étaient en cours de réembourgeoisement. Pour l'église, vue dans le panorama d'ouverture, cette dernière sera construite et brûlée exclusivement pour le film. Puis, Control Demolition fera sauter un ancien immeuble de bureau situé en arrière de celle-ci, l'événement étant filmé à l'aide de plusieurs caméras et intégré au montage final. De plus, l'idée d'intégrer dans l'histoire des travailleurs de la construction de grande hauteur des Premières Nations surviendra lorsqu'un groupe d'Amérindiens se cacheront dans les ruines de Queens et chassaient les habitants de New York City la nuit, forçant ici une véritable enquête policière. Le CGI n'existant pas à l'époque, de véritables loups seront utilisés sur la production. Lors du tournage des scènes en ville, une douzaine de tireurs d'élite de la police furent embauchés et positionnés un peu partout sur le plateau car ces animaux étaient considérés comme sauvages et incontrôlables. Ces tireurs d'élite reçurent l'ordre de tirer pour tuer si un loup devait sortir de son enclos ou encore s'il se sauvait durant le tournage d'une séquence. Ce sera le point de vue de ces animaux qui donnera du fil à retordre à Wadlick. En effet, dans son film, le réalisateur décidera de ne pas montrer les animaux avant la toute fin de son long-métrage, nous donnant à la place un point de vue comme si le spectateur voyait à travers les yeux des animaux. Ce sera le directeur de la photographie, Jerry Fisher, qui sera responsable de cette lourde tâche. Ayant travaillé sur des films tels que Juggernaut, Island of Dr. Moreau et Brannigan, Fisher décidera rapidement d'utiliser une Steadicam pour obtenir le mouvement stylisé, gracieux et balétique des créatures. La Steadicam est un système stabilisateur de prise de vue portatif qui permet à la caméra d'avoir une prise de vue fluide alors que cette dernière est en mouvement, et ce, grâce à un système comportant généralement un harnais, un bras articulé, un système de stabilisation de caméra mécanique ou électronique, ainsi qu'un moniteur permettant à son opérateur de voir ce qu'il prend en image. Ce sera d'ailleurs le créateur de cette nouvelle technologie, Garrett Brown, qui opérera l'engin. Brown avait inventé ce nouveau type d'appareil photo en 1972, appareil qui fera ses preuves sur le grand écran 4 ans plus tard avec les films Marathon Man et Rocky. Alors qu'il fut appelé sur le tournage de The Wolfen, Brown venait tout juste de terminer le tournage de ses dernières séquences avec son invention sur The Shining de Stanley Kubrick. Mais ce seront les effets optiques uniques qui devaient causer des ennuis sans fin au projet et qui engloberont alors une grande partie du temps et du budget de la production. En effet, le réalisateur désirait trouver une façon unique de présenter un visuel pour capter la perception extrasensorielle de ces loups. Dès le début, plusieurs maisons d'effets spéciaux concurrentes furent financées pour expérimenter et innover sur de nouveaux types d'effets spéciaux. La première technique qui sera testée utilisait une sorte de processus informatique qui traduisait les images en plus de 200 nuances de niveau de gris, mais malheureusement, tout contraste était alors perdu lors du rendu final et rien ne pouvait être discerné dans les séquences sombres. C'est alors que Wadleep fera appel à l'assistant technique Robert Blalack, un membre crucial de l'équipe d'effets primée aux Oscars sur le film de science-fiction de 1977, Star Wars. Blalack fera la conception d'une approche composite optique destinée à représenter ce qu'il appellera le « smell-o-vision ». Cette technique s'appuyait sur les effets optiques spéciaux qu'il développait en parallèle pour le film de Ken Russell, « Altered States ». Les résultats ont été qualifiés de phénoménaux, mais seront alors rejetés par les dirigeants des studios Orion, ces derniers pensant que ces effets seraient mal reçus, en général par le public. Wolfen deviendra donc le tout premier long-métrage à utiliser un aspect photographique, visuel, thermographique, et ce pour représenter le point de vue des loups, une technique qui sera réutilisée en 1985 dans le film Predator de John McTiernan. Mais tous ces tests et nouvelles technologies mèneront à une discorde entre le réalisateur et les exécutifs des studios Orion, qui suspendront alors le tournage en février 1980, car la production avait dépassé le calendrier et le budget alloué. Wadleep sera alors relevé de ses fonctions de réalisateur, tout comme Blalack à titre d'assistant technique. Cette situation amènera à un long arbitrage avec la Directors Guild of America sur les droits de Michael Wadleep en tant que réalisateur. L'audience de 21 jours, qui débutera en août 1980, sera la plus longue de l'histoire de la Guild à cette époque. La question centrale de la discorde était le droit d'Orion de résilier leur contrat avec le réalisateur après l'achèvement de la photographie principale et à l'interdiction de ce dernier de participer à la post-production. Au moment de cet arbitrage, la production avait déjà atteint les 10 millions de dollars alors qu'il restait encore beaucoup de séquences à tourner et que le délai de production avait nettement été dépassé, Wolfen devant sortir en salle à l'automne 1980. De plus, le montage initial de Wadleep était d'environ 4 heures avant d'être finalement réduit à 2 heures et 29 minutes. L'arbitre de la Guild, Edward Musk, conclura alors un accord entre les exécutifs d'Orion et Wadleep, dans lequel le monteur Richard Chu continuera de monter la version finale du film et permettant également à Wadleep de terminer les quelques 7 à 10 jours de tournage qui lui restaient. Musk a également statué qu'Orion ne pouvait pas licencier Wadleep pour avoir dépassé le calendrier et le budget, ce dernier n'ayant en aucun moment vu le budget ou ayant eu un calendrier de post-production pour compléter le film. Musk ordonnera à Orion de payer les frais à la Guild et une compensation supplémentaire de 20 000 $ au réalisateur mécontent. Wadleep exigera également que son nom soit retiré du poste de réalisateur, ce à quoi Musk statuera en faveur de la décision d'Orion de conserver le nom du réalisateur dans le générique. Après avoir terminé le tournage des dernières scènes qui reprendra en novembre 1980, Wadleep sera de nouveau licencié et le monteur Richard Chu sera également retiré de ses fonctions, son nom n'apparaissant même pas au générique final. Le scénariste Eric Roth, qui allait remporter un Oscar pour son scénario de Forrest Gump, sera chargé de l'écriture de nouvelles scènes qui seront alors réalisées par le réalisateur John Hancock, qui devra également superviser les dernières sessions de post-production du film. Plus de 4 monteurs seront nécessaires afin de remettre une version finale du long-métrage en bas du 120 minutes. Ni Hancock ni Roth ne seront crédités au générique pour leur travail. À la fin de la production, les coûts de budget avaient presque doublé du montant initial pour atteindre les quelque 17 millions de dollars. Le compositeur Craig Safan sera initialement embauché pour écrire la partition musicale du long-métrage, mais sera remplacé à la dernière minute par le compositeur James Horner, qui n'aura que 12 jours pour écrire et enregistrer sa partition. Ce sera d'ailleurs l'une des 6 musiques sur lesquelles travaillera James Horner durant cette période. Wolfen sera l'un des rares films à sortir en salle avec le format de système de son Megasound. Megasound était un système de sonorisation de cinéma créé par la Warner Bros. Au début des années 1980. Les cinémas équipés pour Megasound avaient des haut-parleurs supplémentaires montés sur les murs gauche, droit et arrière de l'auditorium. Des événements de bandes sonores sélectionnés avec beaucoup de contenu basse fréquence en bruit sourd, crash et explosion étaient alors dirigés vers ces haut-parleurs à très haut volume, créant un effet viscéral destiné à ravir le public. La date de sortie du long-métrage sera de nouveau reportée, passant du 12 juin au 24 juillet 1981 à cause d'une grève des acteurs qui avait causé des délais additionnels à la production. Au final, Wolfen sera une déception au box-office, le film sortant au milieu de deux autres films de loup-garou plus populaires, soit The Howling en mars et An American Werewolf in London en août de cette même année. 4 millions de dollars additionnels seront amassés pour la vente de la vidéocassette, mais cela ne sera pas suffisant pour rembourser l'investissement sur le film. Wolfen amassera plus de 4 nominations au Saturn Award de 1982, incluant meilleur film d'horreur, meilleur réalisateur, ainsi que meilleur acteur pour Albert Finney. Après son expérience désagréable sur Wolfen, le réalisateur Michael Wadlig se retirera presque complètement de l'industrie cinématographique, sortant de temps en temps de son exil auto-imposé pour célébrer une réédition anniversaire de son documentaire à succès Woodstock. Au cours des décennies qui ont suivi la réalisation de son seul long-métrage commercial en carrière, il obtiendra des diplômes en physique et en médecine et deviendra professeur à Harvard. Âgé de 80 ans, Wadlig réside désormais au Royaume-Uni et est connu dans le cercle militant, travaillant pour diverses organisations à but non lucratif, parcourant le monde et donnant des entretiens et des conférences sur les dangers du changement climatique. L'acteur Gregory Hines décédera des suites d'un cancer du foie le 9 août 2003. Quant à l'acteur Albert Finney, ce dernier décédera d'une infection pulmonaire au Royal Marsden Hospital le 7 février 2019, à l'âge de 82 ans. Pour l'auteur Whitney Strieber, ce dernier aura une double carrière d'auteur de fiction et de défenseur des concepts paranormaux à travers ses best-sellers de non-fiction, son site web Unknown Country et son podcast Dreamland. 4 de ses romans seront adaptés au cinéma en plus de Wolfen, soit Communion en 1989, The Day After Tomorrow en 2004, Hunters en 2016 et The Hunger en 1981, roman qui aura par la suite 2 suites littéraires, soit The Last Vampire en 2001 et Lilith's Dream en 2003. Suite à la mort de son épouse en 2015, Strieber, 77 ans, partira vivre en Californie en 2019 et participera en 2022 à un documentaire intitulé « Alien Abduction Answers ». Du côté des points forts, eh bien, Wolfen est un concept véritablement original, enrichi de références écologiques et politiques qui malheureusement est traité par la compagnie de distribution comme un vulgaire film de loup-garou, alors que dans la réalité, ce n'est pas le cas. On a le droit ici à un scénario complexe doté d'une histoire possédant plus de profondeur que le traditionnel film d'horreur habituel qui nous est habituellement donné. Au niveau de la distribution, cette dernière est détendue et beaucoup plus réaliste et évite le « overacting », le réalisateur nous présentant des personnages qui semblent perdus continuellement dans leurs réflexions afin d'analyser les indices laissés sur leur chemin durant leur enquête. La réalisation de style Gorilla rend le film le plus réaliste, ce dernier prenant le temps de nous présenter le folklore amérindien d'une façon respectueuse, le tout rehaussé par des effets spéciaux très avant-gardistes pour son époque. Mais du côté des points faibles, malheureusement, le fait que l'histoire ressemble plus à un drame policier qu'à un film d'horreur pourrait décevoir les amateurs de gore. De plus, le réalisateur nous donne ici un rythme qui est très lent.
Malgré cela, l'histoire avance tout de même assez bien, mais certaines personnes pourraient s'ennuyer, le drame fantastique étant beaucoup plus cérébral que rempli d'action. Le fait que les voix soient difficiles à comprendre parce qu'ils sont enterrés par les bruits ambiants et les effets sonores n'aide vraiment pas non plus. Mais Wolfen demeure tout de même un film intelligent, au visuel impressionnant et comportant une interprétation solide et efficace de sa distribution. Du côté de la musique, eh bien, c'était, comme je disais tantôt, le compositeur américain James Horner qui s'est occupé de la trame sonore. Horner qui nous avait donné les musiques de films de Aliens, Star Trek II, The Wrath of Khan, Braveheart et Titanic, la version de 1997. Je vous fais écouter ici la musique thème du film Wolfen. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm à côté de Manitou, 5. J'y vais également avec une cote 5. Du côté de l'âge et du contenu, la régie du cinéma à côté le film général, moi, j'y vais avec une cote 14 ans. Je trouve qu'il y a quelques scènes de violence et un contenu qui est un petit peu dérangeant pour un jeune auditoire en bas, mettons, d'une dizaine d'années. Mais ça demeure que quand même, l'humour à l'intérieur désamorce quelque peu cette violence. Du côté de Wolfen, eh bien, Mediafilm cote le film 4. J'y vais également avec une cote 4. Du côté de l'âge et du contenu, eh bien, la régie du cinéma cote le film 13 ans indicatif. J'y vais également avec une cote 14 ans pour un langage vulgaire et une violence un peu plus graphique. Au niveau de la trame sonore, eh bien, malheureusement, il n'existe aucune trame sonore actuellement pour The Manitou. Cependant, pour The Wolfen, eh bien, vous avez deux trames sonores qui sont sorties. Vous en avez une qui est sortie le 29 novembre 2011. C'est sorti sous l'étiquette Instrada. Donc, c'est un CD d'à peu près 45 minutes qui a été distribué. Et vous avez Wolfen, The Unused Score, donc une trame sonore qui n'a pas été utilisée pour le film. Celle-là est sortie également sous l'étiquette Instrada le 23 juillet 2012. Donc, deux trames sonores pour mettre dans votre collection audio. Au niveau des sorties DVD, The Manitou est disponible en DVD et en Blu-ray disc, malheureusement uniquement en version anglaise, alors que du côté de Wolfen, vous pouvez avoir le film en français et en anglais, en DVD et en Blu-ray disc. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez également acquérir facilement pour rajouter dans votre collection. Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
Please remember to replace the speaker on the post when you leave the theater.